On discute maintenant donc avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, qui est avec nous. Il était de passage chez nous hier pour évidemment cette annonce là du fonds des pêches du Québec. On parle de 42,8 millions. André Lamontagne, bonjour.
Bonjour, M. O'Leary.
Bon, j'aimerais qu'on y revienne parce que ce montant d'argent a été annoncé en décembre. Il y a la participation du fédéral et provincial là, dans ce 42,8 millions de dollars pour le fonds des pêches.
Oui. Oui, tout à fait. Puis c'est une première dans le milieu des pêcheries là, d'avoir une coopération comme ça entre le fédéral et le provincial. C'est quelque chose qu'on a au niveau agricole avec le partenariat canadien en agriculture. Mais au point de vue des pêches, là, c'est la première fois où on a vraiment là, un secrétariat pour le Fonds des pêches du Québec conjoint fédéral-provincial. Puis le fédéral souscrit à ce programme-là à hauteur de 30 millions pour 5 ans et le Québec 12,8 millions pour 5 ans. Là, c'est une très bonne nouvelle.
Qu'est-ce qu'on est venu annoncer donc aujourd'hui, plutôt hier, du côté de Gaspé? Ce sont les modalités, si on veut, pour accéder à cet argent?
C'était la signature là, hier avec le ministre fédéral qui a malheureusement pas pu se présenter. Là, son vol n'a pas pu rentrer. Mais moi, j'ai signé ici, puis le ministre, là, chez lui, à son bureau, là, a pu signer aussi le document. Alors, maintenant, le programme, les modalités sont connues, les argents sont disponibles, les gens peuvent déposer dès maintenant là, des demandes dans le cadre de ce programme-là.
Bon, parlez-moi un peu des objectifs recherchés par ce fonds des pêches.
Ben écoutez, il y a trois grands objectifs. Il y en a un qui c'est d'accroître la productivité, si on veut la compétitivité là, puis la durabilité de notre secteur de poissons et des fruits de mer. L'autre c'est vraiment la capacité de l'industrie là, à s'adapter aux changements des écosystèmes, puis aussi ben permettre au secteur là, des poissons et des fruits de mer de se démarquer par l'innovation. Fait que on parle ici c'est un programme qui s'adresse autant aux transformateurs, aux pêcheurs. Aux communautés autochtones, instituts de recherche, écoles. Alors, on parle d'infrastructure, on parle d'innovation, on parle de recherche. Alors, ça couvre vraiment une large palette. Tout le secteur, mettons, est couvert. Là.
L'exemple du retour du Sébaste, on pense à ça, puis on en parle beaucoup là, depuis les derniers mois. Est-ce que ça pourrait servir à une usine, notamment, qui voudrait adapter ses équipements là, pour une future pêche commerciale?
Tout à fait. Ça peut autant s'adresser à l'usine qui voudrait se moderniser et adapter ses équipements, ou aussi aux pêcheurs aussi pour acquérir les équipements nécessaires là, pour procéder à cette nouvelle pêche-là, ou que ce soit en aquaculture pour développer des nouvelles façons de recirculer l'eau pour avoir encore une meilleure efficacité, une diminution encore de l'empreinte environnementale. Nos mariculteurs, même chose, pour être capables de des nouveaux équipements pour avoir une pêche plus durable. C'est un large spectre là, de possibilités.
Ce qu'on comprend bien, on n'a pas reçu de demande jusqu'à maintenant. Où est-ce qu'il y en a qui avaient l'intention ou qu'ils ont l'intention de le faire ou que vous êtes au courant qu'il y a des entreprises du coin qui vont participer à ce fonds?
Oui, sans donner de nom, on a déjà des gens là, qui ont entrepris déjà de monter l'analyse de certains dossiers, tout ça, là, puis qui attendaient que le programme soit officialisé là, pour peser sur l'accélérateur puis pouvoir déposer des demandes à relativement court terme. Là, on a du personnel là, dans les bureaux du MAPAC déjà qui accompagne les entreprises déjà depuis un petit bout de temps là, en préparation de cette journée-là. Là.
OK. Parlons un petit peu du retour du Sébaste parce qu'on a donné cet exemple-là. Vous êtes sûrement en communication avec le ministre de Pêche et Océan. On parle d'une commercialisation possible éventuellement. Où on en est rendu justement là-dessus?
Présentement, c'est des prélèvements, c'est une base expérimentale qui sont faits. Puis il y a quelques semaines, là, j'étais à Boston, puis j'ai pu m'entretenir avec le secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, M. Wilkinson. Puis on en a justement discuté, puis il me disait qu'au niveau des prélèvements, là, il y a une présence de ressources là, qui commence à être significative. Là, c'est la grosseur, ils sont en train d'évaluer tout ça. Mais dans une fenêtre là, relativement à court terme, là, c'est une reprise là, qui est envisagée. Là.
OK. Autre sujet chez nous aussi, et c'est de votre ressort, on parle de crustacés de Gaspé, l'usine qui a fermé donc en mars avec la mise à pied évidemment de ses travailleurs. Du côté syndical, on a signifié que cette fermeture-là était probablement due aux négociations, à la syndicalisation des travailleurs. Du côté du propriétaire Unipêche MDM, on parle plutôt d'une question financière. Qu'est-ce que vous savez jusqu'à maintenant dans ce dossier-là?
Bien, écoutez, ce qu'on sait, c'est un peu ce que vous savez, là, parce qu'on a certaines questions là, qu'on a envoyées à l'entreprise, puis on est en attente de réponse, là. Mais c'est certain que c'est une fermeture. Puis là, je pense que là, au niveau, il y a un arbitrage, là, je pense, qui a été demandé pour voir si y a des choses qui peuvent être faites avec ça. C'est une question de relation de travail aussi. Là, mon collègue député, ministre du Travail aussi a été informé du dossier, puis a rencontré des gens. Ma collègue aussi, qui est ministre du Développement économique régional, aussi s'intéresse au dossier. Là, puis nous, MAPAC, c'est ça, on a fait certaines demandes à l'entreprise pour avoir des réponses à certaines questions là, quant au futur de l'entreprise et puis les intentions là, des propriétaires. Là.
Est-ce qu'on vous a donné les raisons principales par rapport à cette fermeture?
Bien, les raisons qu'on a jusqu'à maintenant, c'est les raisons que vous et moi, là, on a pu lire dans les journaux. Là.
Et par rapport à cette usine ou l'avenir jusqu'à maintenant, est-ce que, dans le fond, vous pouvez intervenir à ce niveau-là?
Bien, écoutez, on n'est pas là. Au départ, là, c'est que les gens répondent à nos questions, savoir où ils s'en vont avec ça aussi. C'est quand même une usine là, qui a eu quand même eu des investissements importants là, dans les dernières années au point de vue de sa modernisation. Puis après ça, bien, dépendamment des intentions, là, ce qu'on entend, il y a des gens qui seraient disponibles pour reprendre l'usine. Alors, faut voir ce que les propriétaires actuels vont vouloir faire dans un contexte s'ils décident qu'ils ne veulent pas ouvrir l'usine. Là, il va certainement avoir une certaine pression des communautés là, pour que quelqu'un d'autre puisse prendre le relais. À court terme, ce qui est important, c'est naturellement là, que les travailleurs soient pris en charge. Ma compréhension, là, c'est que je pense sur 74 travailleurs, là, aux dernières nouvelles, je pense que c'était 59 travailleurs là, qui avaient été relocalisés ou en voie d'être relocalisés. Là, c'est peut-être 14 ou 15 travailleurs pour l'instant, au moment où on se parle, là, qui n'étaient pas sur des emplois de nouveaux employeurs. Là. Alors ça, le premier geste, là, c'est pour chercher à faire en sorte que ces gens-là soient relocalisés. Là.
Bon, cette usine du côté de Grande-Rivière, évidemment, pour la situation économique de la municipalité, c'est important. Le gouvernement, chez vous, on a investi 600 000 $, vous en parliez juste un petit peu avant. 600 000 $ oui. Investis pour une mise à niveau de l'usine. Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas un mot, justement, à dire aussi par rapport au futur de l'usine?
Ben, tout à fait. C'est-à-dire, si on a un mot à dire par rapport au futur de l'usine, je dirais non, M. O'Leary, mais par contre, il y a des ententes qui ont été signées avec ces gens-là, parce que l'investissement que vous me parlez de 600 000 $, ça s'est fait en quelques séquences, si on veut. Là. Mm-hmm. Alors, faut voir dans ces ententes-là qu'est-ce qui était convenu par rapport à l'opération de l'usine et tout ça. Puis, une chose qui est certaine, c'est que on peut pas trouver ça une belle solution de voir qu'il y a des fonds publics qui ont été investis assez dans un passé assez récent pour moderniser une usine, puis apprendre aujourd'hui que l'usine est fermée. Ça, c'est sûr que c'est pas pour les Québécois, les payeurs de taxes, le gouvernement, l'industrie, là, ça, c'est certain que c'est pas un scénario idéal. Fait que pour pallier à ça, là, bon, on va voir là, qu'est-ce qui peut être fait là, en fonction de ce qui a été fait dans le passé. Là.
Et quand vous dites ça, c'est quoi vous voulez dire?
C'est parce que vous me demandez s'il y a des choses qu'on pourrait récupérer, s'il y a des argents qu'on pourrait récupérer. Ouais. Ça, je peux pas vous répondre, mais ce que je vous dis, c'est d'avoir investi cet argent-là, puis de voir qu'une usine est fermée aujourd'hui, ben s'il y a des choses qu'on peut faire pour soit récupérer des choses ou dans un contexte où l'usine n'ouvrirait pas, ou on va voir, faut avoir le détail comme des réponses qu'ils vont nous donner aux questions qu'on a posées, qu'après ça, toute la question contractuelle, là.
Ouais.
Mais c'est certain que c'est pas de juste rester là puis regarder la situation. S'il y a des choses qui peuvent être faites, les choses vont être faites là, en fonction des réponses que les propriétaires actuels vont nous donner. Là. C'est à ce titre-là aussi qu'on a envoyé certaines questions à l'entreprise et puis pour lesquelles on attend des réponses. Là.
Puis la question des permis, parce que bon, le MAPAC délivre des permis, ça aussi c'est un élément, j'imagine, qui peut faire en sorte que vous avez un mot peut-être à dire dans ce dossier-là, parce qu'il y a sûrement des critères à respecter lorsque vous donnez des permis.
Oui, tout à fait. Les permis sont renouvelés sur une base annuelle. Alors, il faut toujours voir dans quel contexte la demande est faite de renouvellement. Et puis, c'est toutes des choses qui vont être analysées là en temps opportun. Mais encore là, comme je vous dis, mm-hmm. l'entreprise doit nous signifier exactement là où elle en est, où elle s'en va avec l'usine et tout ça. Après ça, on verra là si et comment on peut intervenir de notre côté. Là. C'est certain que quand on délivre un permis, ben c'est pour que une usine fonctionne.
Ouais.
Fait que c'est sûr que cette année, on a des permis qui sont là, puis ils ne fonctionnent pas, ben il faut voir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Là.
Et est-ce que
comme je dis encore, là, on est en attente là, de réponses d'entreprise. Là. Je ne peux pas vous donner tellement plus d'informations, tu vois, parce que c'est des informations que je n'ai pas là, pour tout de suite. Là.
Est-ce que le gouvernement pourrait accompagner une autre entreprise intéressée ou en tout cas un organisme intéressé de reprendre l'usine?
Bien, ce qu'on a entendu dans l'espace public, c'est qu'il y a des gens qui étaient volontaires là, pour faire une relance de l'usine. Puis là, l'usine, elle appartient à l'entreprise qui vient de la fermer. Alors, il faudrait que l'entreprise accepte, si c'est pas dans ses plans d'ouvrir l'usine, qu'elle accepte de céder l'entreprise à un autre groupe. Là, c'est eux qui vont voir qu'est-ce qu'ils ont à faire, là. Puis en même temps, comme je vous dis, s'il y a des gens qui sont disponibles pour reprendre l'opération, puis il y a quand même une question de pression des communautés, tout ça, là. Il faudra voir là, comment le propriétaire actuel là, va prendre acte de tout ça, là.
Oui, et s'il ne veut pas la céder ou la vendre, cette usine?
Si c'était possible, là, d'abord, il faut voir sur la base contractuelle les obligations de part et d'autre. Parce qu'au niveau de la propriété comme telle, là, non, la propriété, ça appartient au propriétaire actuel. Là. Mais nous, il y a certaines aides qu'on a pu leur accorder là, dans les dernières années, voir comment c'était attaché et tout ça. Là. Mais dans un moment, comme je vous dis, là, on va attendre d'avoir leur réponse, qu'on devrait avoir très bientôt, j'espère. Là, puis après ça, on va voir la suite des choses.
Puis en même temps, avec la question des permis, puis ben, ces investissements-là, ça vous donne un peu de poids, j'imagine, pour... ça a quand même une valeur, donc ça peut vous donner du poids par rapport à l'entreprise à un moment donné pour qu'elle agisse.
Tout à fait. Puis après ça aussi, honnêtement, il y a la question de la communauté. S'il y a des gens qui veulent reprendre une usine, que des gens ont fermé puis ne veulent pas rouvrir, mais qu'il y a des autres qui veulent la prendre, ben, il y a des questions que le propriétaire actuel aussi peut se poser, à savoir, on a quand même des responsabilités dans nos communautés, là, puis... voyons tout ça où ça va s'en aller. Là.
Et en terminant, quand vous dites, bon, on attend des réponses à des questions précises, M. Lamontagne, est-ce que vous vous êtes fixé un échéancier? Là,
d'ici pas quelques semaines. Là. Ça fait quand même un petit peu de temps qu'on a envoyé nos questions. Ça fait que d'ici peut-être dans une semaine prochaine, les temps qui s'en viennent, on devrait avoir des réponses. Si on n'en a pas, on va les relancer certainement.
Bien, André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, merci beaucoup pour cet entretien et avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci bien.
Monsieur Léry, c'est un plaisir.